Vous aurez remarqué que au jeudi saint, au soir du jeudi saint, donc nous n'avons pas le récit de l'institution de l'Eucharistie comme évangile, mais nous avons l'évangile de Jean qui nous rapporte, lui, d'autres événements de cette soirée, et en particulier le lavement des pieds. Hein, c'est simplement que saint Jean écrit plus tard que les autres évangélistes, et donc il ne répète pas l'événement, mais il complète dans la compréhension, dans la compréhension de ce que Jésus est en train de faire vivre, de vivre. Et puis nous savons aussi que chez saint Jean, il y a chapitre 6 de saint Jean, tout un discours sur le pain de vie, qui est un discours très puissant. Quand on prend les termes grecs et qu'on les traduit de façon rigoureuse, eh bien on est assez surpris du réalisme que Jésus dont Jésus parle quand il parle du pain de vie. Hein, il parle vraiment de sa chair, qu'il faut manger, qu'il faut mâcher, etc. Donc quelque chose de très fort. Toujours est-il que cette fête est une fête importante pour bien comprendre notre foi chrétienne. Comme dira le pape Benoît XVI, les choses invisibles sont précisément les plus profondes et les plus importantes. Et dans l'Eucharistie, nous sommes à la fois face à des choses visibles, des rites, et en particulier le pain et le vin, qui vont devenir, nous inviter à faire un acte de foi pour y voir des choses invisibles, les plus profondes et les plus importantes. L'essentiel est invisible pour les yeux dans ce sacrement, et a fait appel aux yeux du cœur, aux yeux de la foi. Et ces yeux-là nous permettent de voir, de comprendre combien Dieu nous aime. Ce sacrement est d'une certaine manière inutile. Jésus, Dieu, en a déjà beaucoup fait quand il nous donne de venir parmi nous dans le mystère de l'incarnation, quand il nous donne de donner sa vie, quand il donne sa vie sur la croix, quand il ressuscite, quand il nous donne l'Esprit Saint, il a déjà suffisamment fait. Et certaines confessions chrétiennes disent que ça suffit. Pourtant, nous, catholiques, depuis le début, nous croyons que quand Jésus a dit « Ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi », c'était aussi un acte d'amour suprême, inutile certes, mais nécessaire, qu'il a voulu nécessaire pour nous. L'amour, il nous dit à travers cela, et je recite de nouveau le pape Benoît XVI, le pape émérite, il nous dit « L'amour transforme toute chose. L'amour a une capacité de transformation de toute chose. C'est par amour que Dieu vient à nous, par amour qu'il nous crée, qu'il nous sauve quand on s'égare, qu'il vient parmi nous, qu'il meurt pour nous. C'est par amour qu'il nous envoie l'Esprit Saint, et c'est aussi par amour qu'il nous donne ce sacrement. Et dans ce sacrement, il y a tout. Et il y a comme... on voit dans le pain et le vin transformé en corps et sang du Christ la puissance de l'amour, la capacité qu'a l'amour à tout transformer sur son passage. Dans le mystère, au cœur du mystère de cette fête, il y a le mystère qu'on appelle la transsubstantiation, le signe de Jésus amour, Jésus charité qui transforme le monde. Ce n'est qu'un début. Dans cette transformation du pain et du vin, ce n'est qu'un début. En regardant, en adorant Jésus présent dans le pain et le vin, en croyant qu'il a vraiment transformé le pain et le vin, et que désormais le pain et le vin ne sont pas du pain et du vin, ce n'est que l'apparence du pain et du vin, mais que la réalité est tout autre, qu'elle est vraiment corps et sang du Christ, avec sa divinité, eh bien nous voyons que l'amour divin transforme ce pain et ce vin pour ensuite transformer le monde, pour que, à la fin, le monde entier soit transformé. L'amour existe, puisqu'il existe, les choses peuvent changer en mieux, et nous pouvons l'espérer et le croire, nous chrétiens. Ce sacrement est le signe que l'amour de Dieu peut transformer le monde, et c'est déjà commencé dans l'Eucharistie. Je voudrais citer saint Thomas d'Aquin. Alors, vous savez que saint Thomas était contemporain de l'institution de cette fête. Et donc, c'est le pape qui a demandé à saint Thomas de composer toute la liturgie de ce jour, de cette messe. Donc, il y a toute la, enfin, ce qu'on a entendu, hein, la séquence, hein, la très belle séquence, hein, qui est une profession de foi. Et puis il y a aussi toutes les autres prières, hein, l'oraison du début de la messe. Tout a été composé par saint Thomas. Et voilà ce que dit saint Thomas sur l'Eucharistie. Enfin, personne n'est capable d'exprimer les délices de ce sacrement, puisqu'on y goûte la douceur spirituelle à la source. Et on y célèbre la mémoire de cet amour insurpassable que le Christ a montré dans sa passion. Il voulait que l'immensité de cet amour se grave plus profondément dans le cœur des fidèles. C'est pourquoi la dernière scène, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, lorsqu'il allait passer de ce monde à son Père, il institua ce sacrement comme mémorial perpétuel de sa passion. Le plus grand de ses miracles, ce sacrement, le plus grand de ses miracles. Et à ceux que son absence, après l'ascension, que son absence aurait rempli de tristesse, il laissa ce sacrement comme un réconfort incomparable. Le Seigneur est bien présent, il est présent et il transforme le monde par sa présence. Il dit aussi, pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si grand bienfait, le mystère de la passion de Jésus, hein, l'incarnation, de la passion et de la résurrection, d'un si grand bienfait, il a laissé aux fidèles son corps à manger et son sang à boire, sous les dehors, seulement les dehors, sous les dehors du pain et du vin. Banquet précieux et stupéfiant, qui apporte le salut et qui est rempli de douceur. Peut-il y avoir rien de plus précieux que ce banquet, où l'on nous propose de manger la chair du Christ qui est vraiment Dieu? Y a-t-il rien de plus admirable en vérité que ce sacrement? Aucun sacrement ne produit des effets plus salutaires que celui-ci. Il efface les péchés, accroît les vertus, comble l'âme surabondamment de tous les dons spirituels. Il est offert dans l'Église pour les vivants et pour les morts, afin de profiter à tous, parce qu'il est institué pour le salut de tous. Voilà, aussi, nous sommes invités à accueillir ce sacrement, à s'émerveiller de cet amour de Dieu, et de croire que l'amour de Dieu qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ est capable de changer le monde et de changer nos vies. Aussi, pour se laisser nous-mêmes transformer en amour divin, eh bien, il nous faut vénérer, accueillir, communier à ce sacrement. Saint Jean-Paul II écrit « L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration. » Nous avons la chance sur la paroisse d'avoir lancé l'adoration il y a déjà pas mal d'années. Elle a été malmenée ces derniers temps à cause des restrictions sanitaires. Mais c'est très important que nous puissions maintenir ce temps d'adoration, cette adoration qui normalement devrait être perpétuelle, pour pouvoir mieux accueillir la grâce de l'Eucharistie. Toujours Benoît XVI écrit « L'adoration dans son essence est un baiser à Jésus. » Adorer est un baiser à Jésus. Dans lequel je dis, je suis à toi, et je prie afin que toi aussi, tu demeures toujours avec moi. Soyons donc des chrétiens qui aiment l'Eucharistie, non pas comme une dévotion, car ce ne s'agit pas d'une dévotion, mais il s'agit d'une profession de foi dans l'amour divin, et cette capacité de l'amour de transformer le monde et de transformer nos vies. Approchons-nous de l'Eucharistie, communions à l'Eucharistie autant que nous le pouvons, recevons-la sacramentellement, et puis aussi, adorons l'Eucharistie. Adorons le Seigneur présent dans l'Eucharistie. Ne craignons pas d'aimer l'Eucharistie, pour aimer Dieu et se laisser transformer par son amour et aimer nos frères. Amen.